Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Bienvenue à chacun. Que Dieu vous bénisse. Des théologiens étaient assis dans un salon, prenaient un café, puis débattaient. Ils disaient, qu'est-ce qui rend le christianisme différent? Et certains disaient, c'est l'incarnation du Dieu homme. Mais il y a d'autres religions qui prétendent, même quelqu'un au sixième peut prétendre être Dieu, tu sais. Mais ils n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faut pour l'accoter. Mais il y a certaines religions qui disent qu'ils ont des divinités qui sont devenues des hommes aussi. Est-ce que c'est la crucifixion ou la résurrection? Et là, tu sais, on discutait comme ça autour du café, puis il y a un gars du nom de C.S. Lewis qui est rentré dans ce café-là, puis il a dit « De quoi vous parlez? » Bien, il a dit « On veut savoir c'est quoi vraiment qui rend le christianisme différent. » Bien, il dit « C'est facile, c'est la grâce. » Quelques petites lettres, la grâce. La grâce, c'est une chose qui est extraordinaire. C'est l'amour de Dieu qui est donné dans sa forme la plus gratuite. Dans l'édition du Pain quotidien 1997, c'était bien résumé. Il disait « La grâce est tout pour rien pour ceux qui n'ont rien mérité. » Tout pour rien pour ceux qui n'ont rien mérité. C'est un beau résumé de l'enseignement de la grâce dans le Nouveau Testament. Pour ma part, ce n'est pas un sujet que je me tente de prêcher ou d'étudier. Je ne réussis pas à rentrer même en surface de ce message-là. Et je pense qu'encore aujourd'hui, si on n'est pas familier avec les mots, on va pouvoir rentrer dans les profondeurs un petit peu plus du cœur de Dieu dans ce sujet-là. La grâce, c'est rare dans le monde. Jésus dit dans Matthieu 5,46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas ainsi de même? » Jésus dit, ça ne vaut même pas la peine d'en parler, ça ne vaut même pas la peine de dire, hey, bravo, hey, tu as aimé quelqu'un qui t'aime. Ça ne vaut même pas la peine d'être mentionné, ça ne vaut même pas la peine d'être récompensé, parce que c'est naturel dans le monde d'aimer quelqu'un qui porte l'intérêt envers nous, d'aimer quelqu'un qui nous aime en retour. C'est comme normal de faire ça. Tu sais. Ce n'est pas digne de mention. Donc, ce n'est pas digne de mention que le chrétien aime seulement ceux qui l'aiment. Ce qui est digne de mention qui fait le chrétien le sel de la terre, qui donne le goût à boire aux eaux de la grâce de Dieu, c'est l'amour pour tous les hommes. C'est son amour pour tous les hommes. Aimer les uns et aimer les autres aussi. Et c'est que le chrétien, à un moment donné, il décide, lui, qu'il va aimer tous les hommes, peu importe leur mérite, tout pour rien, à ceux qui n'ont rien mérité, comme disait le Pain quotidien. Et le chrétien commence à dire, « C'est-tu quoi? Je veux être différent du reste du monde. Je veux flasher dans le monde en étant quelqu'un qui aime tous les hommes. » Et ça, ça fait de lui quelqu'un d'extraordinaire dans ce monde parce qu'il va faire quelque chose qui n'est pas faisable avec l'aide de son Dieu. Et donc, Jésus dit deux versets plus tôt de ce verset-là dans Matthieu 5, 46, il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le fond? Vos ennemis. Bénissez, ah oui, oui, bénissez ceux qui vous bénissent. Non, ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux, s'ils m'aident à déménager, je vais l'aider à déménager. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux. Wow! C'est quelque chose, ça. Quand vous pensez à ça, quelqu'un ne peut pas ouvrir les pages du Nouveau Testament puis lire les Évangiles puis pas être frappé de cette demande qui est faite à ceux qu'on appelle des chrétiens, à ceux qu'on appelle ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus a dit, vous êtes mes disciples si vous écoutez ma parole. Puis dans un verset parallèle dans l'Évangile de Luc, il va dire, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, puis il dit la même phrase. Si tu dis que tu es un chrétien et que tu écoutes les enseignements de Christ, si tu m'écoutes, fais ça. C'est un peu ça que Jésus est en train de dire ici. Si on est pour se dire chrétien, eh bien, ce sont des impératifs ici qui nous sont demandés et ce n'est pas une option. Moi, ça ne me tente pas d'aimer tous les hommes. Ça devient une option. C'est vrai que le choix, c'est de pouvoir faire le contraire d'un impératif. On a la liberté, mais si on veut vraiment être des disciples, on est sommé par la Bible puis par les enseignements de Jésus d'aimer notre prochain puis d'aimer tous les hommes, même nos ennemis. Si je suis pour écouter et dire que je suis un disciple de Christ, je devrais porter une attention à cette demande qui est placée sur ma vie d'aimer tous les hommes. Il y a un impératif qui est placé sur ma vie. Comment est-ce que je vais y arriver? Je vais y arriver en choisissant la valeur de la grâce. Choisir la valeur de la grâce. C'est un message qui est dans une série de un message. On va terminer aujourd'hui cette série-là. Donc, c'est un message unique qui n'est pas dans le cadre d'une autre série. La semaine prochaine, on a Pâques. Je vous défie d'inviter quelqu'un, payez-lui le repas après, pour entendre. Hey, sais-tu pourquoi que Pâques, ça a un S? Non. Mais parce qu'il y a plusieurs Pâques. Mais oui, il y avait une Pâques, puis savais-tu que Jésus est mort le jour de la Pâques? Puis savais-tu que ça faisait des milliers d'années, des centaines d'années, qu'on immolait un agneau le jour de la Pâques? Ça sonne-tu une cloche? Bien, tu dis ça pas comme ça, mais ce que je veux dire, inviter quelqu'un, piquer sa curiosité. Dites, hey, viens, tu vas voir l'historique de la Pâque, elle remonte à bien plus longtemps que la mort de Jésus. C'est fou tout ce qu'on va apprendre ce dimanche-ci. On a une personne conférencière qui va venir, ça va être vraiment intéressant. OK, on revient à notre message. Choisir la valeur de la grâce. Le message aujourd'hui va tenter d'adresser le fait que la grâce de Dieu est ridiculisée dans notre monde. Elle est souvent restreinte. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de la manifester. Et trois, il y a des raisons suffisantes pour choisir d'aimer tous les hommes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui tout au long de mon message. À deux reprises à la radio cette semaine, j'ai entendu des animateurs radio ridiculiser un parent qui se présentait en cour pour parce qu'il y a un fils qui était un criminel qui avait fait une grosse affaire comme vendre pour plusieurs millions de dollars de drogue, par exemple, sur l'île de Montréal. Puis là, les parents ont osé se présenter en cour. Un autre, c'est un autre crime. C'est des choses qui sont vraiment ignobles, des choses que tu aurais honte de l'appeler quasiment ton fils ou ta fille d'avoir fait ça. Mais on les ridiculisait à la radio que d'être allé assister à ce que leur fils ou leur fille a fait. Et donc, pourquoi? Mais parce que la voie normale dans le monde, c'est de laisser pourrir une personne qui a ce qu'elle mérite. Hein? C'est la pensée du monde méprise la grâce parce que la grâce est un amour pour tous les hommes et qui est gratuit. Dieu dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait soleil sur les bons et sur les méchants. Dans le même passage de Matthieu 5, à propos d'aimer nos ennemis, Dieu, lui, y étend son amour. Et si ce n'est que juste pour être père ou mère, juste parce que je suis père ou mère que je vais là, non pas pour approuver, non pas pour excuser ce que mon fils, ma fille a fait, mais être juste un père, être juste une mère, qui dit, c'est-tu quoi, je ne suis vraiment pas d'accord, j'excuse pas en tout, puis le bras de la justice est en train de s'occuper de toi, mon chum, mon fils, ma fille, mais je suis quand même ton père, je suis quand même ta mère, je suis quand même ton frère. Puis, et donc, ce qui arrive, c'est qu'on veut punir et servir nous-mêmes la leçon de ceux qui ont fait le mal. Et continuer d'aimer, ce n'est pas excuser l'inexcusable, parce que le bras de la justice est capable de s'en servir. Mais dans Job 6, au verset 14, c'est écrit, « Un homme a le droit à la compassion de son ami, même s'il abandonnait le Tout-Puissant. » Et quand on abandonne le Tout-Puissant, normalement, les œuvres viennent avec aussi. Jim Baker, qui, en 1989, a été condamné à prison pour 45 ans pour fraude financière. Il y avait un complexe où il louait des espaces, etc., puis les chrétiens allaient en vacances et tout ça. Puis il y a vraiment une fraude, là, un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars dans son compte à lui. Il a couché avec sa jeune secrétaire, etc. condamné à exemplaire, condamnation exemplaire 45 ans pour avoir finalement fait juste 5 ans. Ils ont revisé la peine qui avait été beaucoup trop sévère. Mais la première personne à aller le visiter, c'était Billy Graham qui, pendant que Jim Baker était en train de laver les toilettes dans la prison, le gardien a dit qu'il y avait de la visite, tu sais. Puis il se demandait bien qui serait pour venir le voir comme ça en prison. Puis c'est Billy Graham qui l'a pris, puis il dit « chantait un peu la toilette ». Puis il dit « Billy Graham, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit « je suis ton ami, t'es mon frère » ou quelque chose comme ça. Il dit « c'est un des premiers qui l'a appelé aussi ». Et donc, c'est dans ce monde-ci, ce sont des valeurs qui sont ridiculisées parce que, à quelque part, quelqu'un qui a fait le mal, il faut le laisser pourrir dans ce qu'il a fait. T'sais. Et donc, ce qui est mis en avant dans notre société, et j'écoutais encore, c'est fou toutes les émissions, on dirait que ça parlait de vengeance toute la semaine. Je veux dire, en plus, on a les missiles qui sont envoyés sur Al-Assad, puis on a le paquebot hier qui est parti, le porte-avions qui est en route vers la Corée du Nord. T'sais, t'sais, ah, ça bouillonne de rétaliation, de vengeance, t'sais. Puis, on entend à la radio, j'entendais à la radio, par exemple, il y a un jeune qui souffrait de TDAH à l'école, donc tu es un petit peu dans la lune, un peu en retard quand c'était le temps de suivre dans les exercices et tout ça. Puis, les jeunes, pour dire un mot poli, j'ai changé le mot, là, mais pour que ça reste poli là, dans mon message, ils se faisaient appeler de larve. Et il a vieilli, puis tout le monde le traitait de larve, tu sais, puis de paresseux, puis de etc. Puis à un moment donné, ben il travaillait sur des towing. Puis à un moment donné, ben qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui le méprisait quand il était jeune, il était dans le clos. Puis là, il est arrivé, puis il a vu le gars qui le traitait de larve, tu sais, à l'école. Fait que le gars, il dit, « Tiens, t'es venu me dépanner, larve, ou je sais pas quoi, tu sais. » Fait que le gars, il dit, « Je l'ai regardé. Je suis rembarqué dans la remorqueuse. » Puis il dit, « J'ai passé mon tour. » Il dit « La vengeance est douce au cœur de l'Indien. » Puis j'étais en auto, puis je suis Tiens-toi! » Ça, c'était ma première pensée. Je dis « Tiens-toi, t'as juste que ce que tu mérites, t'as le retour de ta pièce, de ta monnaie. Tu » sais. Puis, on ne s'empêche pas de sourire, hein? Ça ne nous empêche pas de sourire, ça, puis de dire « Ben bon pour toi, mais quand on fait ça, on n'est pas ben ben différent du monde. » N'importe qui dans le monde était capable de dire « Yes, tiens-toi. » Il y en a un autre, lui, il appelle à la ligne ouverte, puis il dit « Moi, il dit, c'est un de mes voisins, il dit, il se promène avec son chien, puis il dit, il fait ses besoins sur mon terrain. J'ai commencé à tanner, fait que j'ai dit au gars, ça te dérangerait-tu de ne pas mettre mon terrain en dessous des besoins de ton chien? Comme disait François Pérus. Fait que le gars, il dit, mon chien, il dit, c'est lui qui choisit où ce qu'il fait ça, tu sais. Puis il ne ramassait pas les besoins en plus. Il dit, ça faisait deux fois, je l'avertissais, il dit, la troisième fois, il dit, je l'ai laissé faire. Puis il dit, je suis allé ramasser les besoins. Puis il dit, j'ai suivi mon voisin, il s'en allait jouer une partie de golf avec ses amis. Il dit, j'ai attendu qu'il soit avancé sur le terrain de golf. Puis il dit, c'était une belle journée, 30 degrés, il faisait chaud. Il dit, je suis allé mettre ça dans son pare-brise. Puis là, on est tous là, on écoute, là, tiens-toi! Puis il dit, ça a séché, ça a croûté sur le pare-brise de toute beauté. Et puis là, on est là, puis Doc Mayou de dire, eh bien, vous lui avez appris à vivre en société. Et il y a un sentiment de bien-être qui vient dans notre cœur parce qu'on se dit, ah, il y a une justice qui a été faite. Et puis, on se dit, un autre moron de moins qui va commencer à respecter. Il va comme un gars qui va apprendre les leçons de la vie, puis il va commencer à respecter ses voisins. On est content. Puis, on se surprend à féliciter l'homme d'avoir appelé à la radio, puis d'avoir dit, tiens, c'était bon ça, c'était correct ça. Mais nous, les chrétiens, on a plus que ça. Il faut s'élever à plus que ça. L'enfant de Dieu est appelé à quelque chose de plus grand qui c'est la foi. Et nous, on a ce que le monde ne possède pas, c'est la foi en un Dieu juste. Et donc, dans Galates, au chapitre 6, verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, on a ici une promesse qui nous est faite dans Galates 6, 7, qu'un affront fait à quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, c'est aussi un affront à Dieu qu'il a fait à son image. Et donc, notre foi nous amène à se reposer puis de dire, c'est-tu quoi? Dieu voit, Dieu entend, et Dieu saura s'occuper soit ici dans cette vie, soit plus tard. Mais une chose est sûre, un jour, les livres vont se balancer. Ça va être juste et ça va être juste à ma satisfaction aussi. En attendant, à cause de ça, je peux aimer tous les hommes, même ceux qui m'ont fait du mal. À cause de ça, je peux prier pour tous les hommes, même pour ceux qui me persécutent et me maltraitent. Et donc, le chrétien vit d'une justice qui est divine, d'une justice qui est au-dessus de lui. Mais l'homme sans Dieu, c'est comme, tu penses-tu qu'il va s'en sortir comme ça? Tu penses-tu qu'il faut qu'il aille sa leçon? Sinon, il va le faire à d'autres. On est là, mon ami, puis on est la compagnie, la fraternité humaine contre celui qui a fait de le mal. Tu sais. L'humanisme sans Dieu. Mais celui qui a Dieu, celui qui a la foi en Dieu, a ces versets-là, c'est hey, « trompe-toi pas, trompe-toi pas ». Tandis que dans le monde, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir sa propre justice, ils ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Un manque d'amour pour tous les hommes révèle ça. Je veux faire ma propre justice. Et je ne me soumets pas à la justice divine. Mais pour le croyant, nous, on peut choisir d'aimer tous les hommes parce que Dieu est juste. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Donc, on a vu, elle est ridiculisée dans le monde. Ce n'est pas une valeur qui est mise en avant, de la valeur de la grâce. Deuxièmement, elle est restreinte. Et ici, ça va être intéressant ce qu'on va voir. La grâce de Dieu est restreinte d'être manifestée dans ma vie à cause de la douleur. La douleur de ce qui m'a été fait, la douleur de l'offense. Quelqu'un qui souffre n'est pas capable d'aimer. Quelqu'un qui souffre est concentré sur lui. Quelqu'un qui fait grâce est concentré sur l'autre et sur Dieu. Il est en train d'offrir quelque chose, tandis que l'autre est concentré sur lui, il n'est pas capable d'aimer. La souffrance a besoin dans ton cœur, dans mon cœur, d'être entendue. Elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être soignée par l'amour de Dieu. Une autre femme appelait à la radio et elle se plaignait qu'on l'avait insultée. On l'avait traitée encore là, je vais dire, de maudite folle, ce qui se dit. À la radio, il se dit des mots bien plus vulgaires que ça. Puis Doug Mayou de répondre, puis après, là, je veux dire, maudite folle, je veux dire, il n'y a rien là, se faire dire ça, là, passe par-dessus. Puis là, il commence à minimiser la souffrance de cette femme-là pour la faire taire d'une certaine manière. Et puis là, la femme a dit, oui, mais elle a fait ça devant son enfant. Elle est en train de montrer à son enfant qu'on peut envoyer promener tout le monde dans la société. Puis la vérité, c'est que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait, dans le fond? Pourquoi elle a appelé à la radio? Elle avait besoin que l'injustice qui lui a été faite soit entendue. Elle avait besoin de verbaliser, d'extérioriser quelque chose qui lui avait été fait. Et on a besoin de faire ça. Sauf qu'à la radio, ce n'était pas nécessairement la bonne solution. Mais la vérité est la suivante, c'est qu'on sera restreint dans notre capacité d'aimer si nos douleurs n'ont pas été entendues, vues et soignées par Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ailleurs, la première épître de Pierre a dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. » Une personne qui ne fait pas ça n'est pas capable d'aimer l'offenseur. Elle n'est pas capable de prier pour celui qui lui a fait du mal. Mais la personne, parce qu'elle est chargée, elle a quelque chose, elle est dans une blessure, tu me dis que tu veux que j'aime cette personne qui m'a offensé. Impossible. Restreinte par nos douleurs. Et donc, on doit aller à Jésus pour que nos blessures soient vues, entendues et soignées par son amour. Et c'est seulement dans l'amour de Dieu que les entraves disparaissent. Plus on est guéri par l'amour de Dieu, plus on reçoit nous-mêmes cet amour-là, plus on est capable de la redonner aussi à d'autres. Comment est-ce que Dieu le fait? Il le fait par sa parole. Il le fait par sa parole. Dans le psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Mais la personne qui s'approche de la parole de Dieu va sentir et savoir que ses émotions sont prises en charge et que Dieu envoie sa parole pour guérir cette personne-là. Donc, vous êtes dans les 13 premiers chapitres d'Exode. Vous êtes au chapitre 5. Et on va regarder justement la première Pâque. aujourd'hui. Comment ça a commencé tout ça? Et avant d'aller au chapitre 5, on va regarder un petit peu les quelques premiers chapitres. Donc, si un chrétien est vraiment concerné par le défi que Jésus nous donne d'aimer tous les hommes, il va prendre très à cœur que Dieu se met des messagers de côté pour ça. Il va nous envoyer des pasteurs, des enseignants, il va nous envoyer la Bible, l'étude de la Bible, pour façonner en nous cette capacité d'aimer, pour briser ces restrictions-là qui sont là. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans les 13 premiers chapitres de Exode, où il y a des douleurs émotionnelles qui sont là. On lit au chapitre 2, « Longtemps après le roi d'Égypte, que le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Nos douleurs ont besoin d'être entendues, ont besoin d'être vues et ont besoin d'être prises en compte par notre Dieu qui est plein de compassion pour nous. Et ici, c'est écrit que Dieu se souvint de son peuple qui regarda les enfants d'Israël et qu'il en eut compassion. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Dieu va mettre à part un messager. L'Éternel dit à Moïse, il apparaît dans les chaînes de Mamré, puis il lui dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu dit, « J'entends. » Et il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Je vais me mettre un messager, je vais mettre une personne à part, pour aller leur dire. Quelqu'un avec de la chair, quelqu'un avec des os. » Et là, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'ils entendent dire que Dieu a envoyé Moïse puis Aaron puis qu'il revient pour les délivrer, au chapitre 3, 4, verset 30, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple et le peuple crut. Et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Quelqu'un ici qui est convaincu que Dieu l'aime, que Dieu voit, que Dieu va faire quelque chose avec ce qui a été fait, avec ses injustices, parce qu'oublions pas que c'est un peuple qui est sous esclavage, qu'on est en train d'essayer de tuer chacun des premiers-nés mâles, parce que ça populse ce groupe-là. Et plus qu'on essaye d'éliminer ces enfants-là, plus qu'il y en ait. Tu essaies d'enlever un, il y en a cinq qui pop. Puis tu vois dans les premiers chapitres que Dieu faisait du bien aux sages-femmes, parce que les sages-femmes, au lieu de les jeter dans le Nil, comme c'était demandé, bien, il dit « Ah, trop tard, on est arrivé, puis il était né. » Tu sais, puis il faisait des trucs comme ça. Puis c'est écrit « Dieu fit du bien aux sages-femmes » parce qu'il faisait ça. Tu sais. Fait qu'on voit un Dieu qui, au milieu de la douleur, « Mon Dieu prend soin de moi. » Au milieu de l'injustice et des menaces, j'ai un Dieu qui prend soin de moi. J'ai un Dieu dans les cieux qu'on ne se moque pas de lui. Tu joues dans un pupille de l'œil de Dieu quand tu touches à un de ses enfants. Et ça le fatigue vraiment. Puis il va faire éventuellement quelque chose avec ça. Et donc, Dieu se met à part un messager et envoie Aaron et puis Moïse, parce que Moïse ne veut pas y aller tout seul. Fait que Dieu dit, OK, parfait, je vais te donner un assistant. Mais Aaron est obligé de répéter ce que Dieu a dit à Moïse. Puis là, ils se prosternent, ils acceptent. Qu'est-ce qu'on voit? Ils ont une capacité pour l'endurance. Ils ont une capacité pour vivre quelque chose qui n'est pas endurable, quelque chose qui est difficile à survivre. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça rempire, parce que là, ils s'en vont voir Pharaon. Tu sais, peut-être Moïse pensait, là, « Hey, je commence dans le ministère, mon ami, la baguette qui se transforme en serpent, mon ami. Je veux dire, Pharaon va me laisser aller, c'est sûr, tu sais. » Puis, même si Dieu dit, ah, il voudra rien savoir, il y a comme peut-être l'idée qu'il va être convaincu. Mais finalement, regardez bien le Pharaon, qu'est-ce qu'il dit. Et là, on va lire dans le chapitre 5, versets 7 à 9. 5, versets 7 à 9. Alors là, le Pharaon dit à ses responsables des travaux, « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Je vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » que l'on charge, écoutez bien, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Oppression, difficulté, plus capable d'écouter les paroles. Ils vont tellement être surchargés qu'ils vont oublier l'idée qu'il faut qu'ils sortent du peuple d'Égypte pour aller célébrer Dieu dans le désert. Ça va être une parole mensongère. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez au verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ça, c'est les responsables des travaux du côté juif. Ils ont dit, « Hey, ça ne marche pas. Vous nous demandez le même nombre de briques, mais vous ne fournissez plus le matériel qu'on avait besoin avant. Fait que là, il faut qu'on court deux fois plus, ça n'a pas de sens. » Puis le pharaon les insulte, puis il leur dit, « Voyons donc, vous êtes bien donc des paresseux, vous autres. » Fait que là, ils sortent de là insultés, blessés, et ils sortent de chez Pharaon, ils rencontrent Moïse et Aaron qui les attendaient, et ils leur disent que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Accusation contre le leadership. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? » Alors Moïse dit, « Il m'accuse, moi je t'accuse. Dieu, pourquoi tu fais mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis, je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom. Il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. » Alors, qu'est-ce qu'on voit? Des conflits, pression, chargé. Puis là, on n'est plus capable d'aimer. On est capable de reprocher. On est capable de trouver des raisons pourquoi moi, je ne vais pas. Eux disent que c'est à cause d'Aaron. Aaron dit que c'est à cause de Dieu. On est capable de trouver une raison pour notre souffrance, mais on n'est pas capable d'aller plus loin. C'est intéressant. La solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Moïse qui va déverser son cœur devant Dieu. On peut tout dire à Dieu. On peut même lui dire, c'est à cause de toi, si ça va mal à la limite. Puis dans sa présence, qu'est-ce qu'on entend? On entend sa voix. On apprend à réfléchir avec lui. Puis là, Dieu lui dit, non. On revient au messager. J'ai un message pour mon peuple. Alors, le message est au verset 6 à 8 du chapitre 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob, et je vous donnerai possession, moi l'Éternel. Ainsi parle là Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse, écoutez bien, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Notre obéissance à écouter la parole de Dieu est restreinte par nos douleurs. Puis Moïse ne va pas s'acharner davantage. C'est écrit ici, verset. L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. C'est comme faire ce que Dieu veut, penser avec Dieu. C'est comme la douleur est trop vive. Fait que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le peuple d'Israël un petit peu de côté. Puis il va se charger de l'injustice. Et là, il va tomber sur les Égyptiens 10 plaies, une en arrière de l'autre, avec des possibilités pour Pharaon de se repentir dans les premières phases. Puis après ça, un endurcissement que Dieu va même donner à Pharaon pour vraiment amener ses résolutions à leur terme. Mais on s'aperçoit que Dieu agit. Puis on ne voit jamais le peuple d'Israël se tasser ou écouter, obéir à une parole. Admettons qu'il y a une plaie qui tombe sur toute l'Égypte, elle ne tombe pas à Goshen, là où sont les Juifs. Puis là, tranquillement, les croyants commencent à voir qu'ils sont pris, protégés, gardés. Ils voient que Dieu accomplit ses promesses, que Dieu a dit qu'il était pour les délivrer, puis même si on l'accusait que c'était pire, il est encore là, puis il va quand même amener toute chose à une bonne fin pour eux. Et plus qu'ils voient la main puissante de Dieu forcer le pharaon à les laisser partir, plus ils commencent à voir que Dieu a une vraie justice. Puis que oui, on ne se moque pas de Dieu. Si Moïse a dit, c'est qui Dieu? que je vous laisse aller. Lui, il s'est moqué de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Mais là, il voit la main de Dieu commencer à repayer le mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent respectueux, puis tranquillement, leur douleur, elle commence à plus les empêcher de faire ce que Dieu veut. Et dans la dernière plaie, qui est la dixième, c'était de prendre un animal, un premier-né, parmi les agneaux, l'immoler, prendre son sang, puis le mettre sur les colonnes. Et qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait que le premier-né de cette maison-là ne serait pas touché par le fléau. C'est pour ça que tout au long, après ça, dans la loi de Moïse et tout ça, on offre, quand un jeune homme naît, on va payer le prix du rachat pour son fils premier-né. Pourquoi? Pour se rappeler que cette nuit-là, mon fils premier-né a été épargné à cause d'un animal innocent à sa place. Puis, c'est pour ça que Jésus, quand il est né, on a donné des tourterelles là, puis qui ont cassé le cou. Là. Il y a eu l'offrande du pauvre, hein, ses parents. Et donc, dès que le premier-né masculin, c'était pour se rappeler de cette Pâque-là. Puis Pharaon a perdu son premier-né. Puis tous les premiers-nés des animaux aussi sont morts cette journée-là. Et donc, ça a été ce qui a finalement laissé aller le peuple. C'est vraiment intéressant parce que c'est écrit que Dieu dit, il donne plein de consignes. Vous le lirez, ça c'est dans le chapitre 12. Mais on peut juste voir dans le chapitre 12, il y a plein d'instructions qui sont données sur la Pâque. On va voir ça la semaine prochaine. Mais au verset 28, regardez bien. Et les enfants d'Israël s'en allèrent, firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Mais ici, ce que je veux attirer votre attention, c'est qu'au début, la douleur les empêchait de faire, d'écouter ce que Moïse avait à dire. Et la douleur nous empêche de dire, « Hey, Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis, mais là, j'ai trop mal pour aimer mon adversaire. » Mais la douleur a été prise en charge. Éventuellement, ils ont vu que Dieu prenait soin d'eux. Et ils ont finalement dit, « Sais-tu quoi? Oui, je veux obéir à ce que tu me demandes. » Et puis, ils ont offert ce sacrifice-là. Puis là, il y a eu les plaies en Égypte. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que Dieu s'est occupé de leur douleur. Il leur a même donné du temps pour être capable de faire ce qu'ils demandaient. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas capable d'aimer mon ennemi parce qu'il y a une douleur qui est trop vive. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse-le. Découvre comment il prend soin de toi. Puis laisse-toi aimer par lui. Éventuellement, tu vas être capable d'étendre le même amour aux autres. Mais c'est quand même quelque chose qui t'est demandé. Troisième partie de mon message, c'est les raisons suffisantes pour choisir la valeur de la grâce. J'en ai au moins quatre. Il y en a peut-être plus, mais il y en a au moins quatre. Mais avant de parler des raisons suffisantes pourquoi on devrait choisir, c'est quelque chose qui doit être choisi, parce que normalement, avec l'illustration que je vais vous raconter, vous allez comprendre pourquoi c'est important de choisir les valeurs. Normalement, quelque chose qui a de la valeur pour nous, on est prêt à tout pour ça. 26 décembre 1944, le lieutenant Onoda, qui est un lieutenant japonais, est déporté par l'armée japonaise sur une île des Philippines. Et le plan, c'est d'arrêter les Américains le plus possible d'envahir l'Asie. Et donc, c'était de tenir sur le terrain, de se battre à tout prix, ne jamais abdiquer. Lui et son commandant savaient qu'on l'avait envoyé sur cette île-là comme une mission suicide. Il était comme une petite gang de guérilla. Puis là, les Américains, ils allaient envahir toutes les îles. Et donc, en février 1945, deux, trois mois après, les Américains arrivent sur l'île. On prend l'île d'assaut avec une force étonnante. Et en quelques jours, les soldats japonais sont capturés, soit tués. Et Onoda et trois hommes se cachent dans la jungle et commencent une guérilla contre les forces américaines et la population locale. Et vont interférer contre le travail des Américains autant qu'ils le pourront, parce que la consigne, c'était jusqu'au bout. Vers la mi-août, le six mois après, les Américains lancent la bombe nucléaire sur la ville d'Hiroshima et Nagasaki, et ça met fin à la guerre la plus meurtrière de l'histoire humaine. Les Japonais se rendent, mais pour ceux qui sont au fond de la jungle, comme Onoda, Il est impossible pour eux de savoir que la guerre est vraiment terminée. Ces hommes sont regroupés dans des îles comme des guérillas et ils attaquent des villages pour survivre. Et le gouvernement sait que quelque chose doit être fait. Les Américains et les Japonais envoient des milliers de messages par voie aérienne. On envoie des capsules, on envoie toutes sortes de messages pour dire « la guerre est terminée ». Mais pour ceux qui sont dans la forêt, on entend « c'est un piège des Américains qui veulent qu'on sorte de nos cachettes pour continuer la guerre ». Et donc, 5 ans vont passer et la présence américaine n'est même plus présente dans les îles en Asie. Et la population de l'île tente de retourner à la vie normale. Les cultivateurs tentent de cultiver leurs champs à nouveau, mais ils se font voler du vandalisme et on tue ceux qui s'approchent dans la jungle un peu trop profondément. Et le gouvernement local va essayer d'autres tentatives. Des pamphlets « Sortez, vous avez perdu, la guerre est terminée ». Mais ces messages sont tous ignorés. 3 ans plus tard, effort final, lettres et photos de soldats disparus, dont la leur, pour montrer qu'ils sont recherchés. Mais Onoda refuse de croire que ces informations sont vraies. Il croit encore que c'est un piège, puis il continue de combattre. Les Philippins, ils vont finalement prendre les armes, les forces locales, et ils vont entrer dans la jungle. Et un des compagnons d'Onoda va être tué, l'autre va se rendre, et il va rester que Onoda et finalement un autre compagnon. Lui va être tué un peu plus tard, et là, imaginez, 25 ans après que la guerre est terminée, ce gars-là est en train de brûler un champ puis il se fait tuer par les forces policières. 25 ans après que la guerre était terminée. Et Onoda a passé, à ce moment-là, il était rendu à la moitié de sa vie dans les jungles de l'île de Lubang, aux Philippines. En 1972, on commence à faire de lui une légende. Est-ce que c'est un vrai homme? Est-ce qu'il a vraiment existé ou on l'a inventé? Est-ce qu'il a vraiment existé, ce gars-là, tu sais, il y a 30 quelques ans, tu sais, il y a 30 ans? Là, est-ce qu'il a existé, ce gars-là? Puis, il serait-tu encore vraiment en vie? Et là, ça en parle aux nouvelles. Ça. Et là, il y a un jeune qui, lui, s'appelle Norio Suzuki, qui est un jeune un petit peu bohème. Il était explorateur, aventurier, et le livre dans lequel je lisais, il disait un peu fou. C'est un gars-là, il échoue à l'école. Puis à un moment donné, bien, il a décidé de faire le tour de l'Asie, le Moyen-Orient, sur le pouce. Il dormait dans les voitures des gens, travaillait pour des fermiers en échange de la nourriture et donnait du sang en échange d'un gîte et de la nourriture. Ce jeune homme-là haïssait l'école. Puis quand il est revenu à son Japon natal, il a entendu parler qu'Onoda était une légende. Puis lui, il a dit, je vais aller voir si c'est vrai, si c'est fondé. Je vais aller essayer de le retrouver. Il croyait, lui, qu'il serait celui qui le trouverait. Le gouvernement et les forces locales n'avaient pas réussi en dedans de 30 quelques années à le trouver, mais lui, il allait le trouver. Fait qu'il part avec son pack-sac sur le dos, pas d'armes, pas de moyens de défense, puis sa tactique, c'est de rentrer dans le bois, dans la jungle, puis de crier très fort son nom, puis de dire que l'empereur se souciait de lui. Il l'a trouvé en 4 jours. Et donc, ils ont resté un certain moment ensemble, et comme ils étaient tous les deux japonais, puis quand Onoda était seul depuis plus d'un an, parce que un de ses derniers collaborateurs avait été tué, bien, il appréciait cette camaraderie-là. Il était un petit peu désespéré d'apprendre ce que son Japon natal était devenu 30 ans plus tard. Et donc, il y avait une source maintenant qu'il pouvait croire, un autre japonais comme lui. Et ils devinrent des amis. Puis le jeune Suzuki, en passant, j'ai tout traduit ça, mais c'est un texte. J'ai trouvé ça le fun à traduire pour vous. Mais je le lis pour être sûr de ne pas manquer des détails. Ils sont devenus amis. Puis le jeune Suzuki s'est demandé pourquoi tu étais resté 30 ans dans la jungle comme ça, puis tu as combattu. Et Onoda de répondre, j'avais reçu l'ordre de ne jamais abandonner. 30 ans plus tard, il avait suivi un ordre, et cet ordre-là, c'était « abandonne pas ». Mais là, Onoda, il s'est tourné vers le jeune, puis il dit « toi, pourquoi un hippie comme toi vient dans la forêt pour chercher un gars comme moi? » Puis Suzuki, il dit « moi, j'ai quitté le Japon à la recherche de 3 choses. Dans l'ordre, le lieutenant Onoda, trouver un ours panda, puis l'abominable homme des neiges. » Alors, les deux avaient quelque chose en commun. Ils poursuivaient sincèrement une fausse image de la gloire. Deux gars qui qui s'imaginent comme des héros dans la jungle des Philippines faisant rien, pour rien. On a donné la moitié de sa vie pour rien, une guerre qui était déjà terminée. Suzuki a trouvé Onoda, a trouvé un ours panda, puis a finalement été trouvé dans les montagnes de l'Himalaya, mort en train de chercher l'abominable homme des neiges, pour rien. Les humains, des fois, on se donne beaucoup de mal pour atteindre des causes qui n'en valent pas la peine. Onoda, des années plus tard, il disait « Je ne regrette pas d'avoir consacré une partie de ma vie pour un empire qui n'existe même plus. Pourquoi j'ai fait ce que j'étais appelé à faire? » Dans un scénario, dans le scénario qu'on vient de voir, chacun a choisi dans la façon dont il voulait souffrir. Onoda a souffert par loyauté à un empire qui était mort. Suzuki est mort pour une aventure risquée. Et pour chacun, la souffrance signifiait quelque chose. Elle remplissait le besoin que chacun de nous en a d'avoir une cause qu'on croit être plus élevée. Pourquoi? Parce que ça signifie quelque chose, on est prêt à le supporter et même d'en jouir. C'est-à-dire que la souffrance est tolérable si tu penses que la cause en vaut la peine. Pour Suzuki, trouver l'abominable homme des neiges, pour lui, là, ça vaut la peine. Et on est prêt à endurer, on est prêt à souffrir, on est prêt à pour quelque chose qui en vaut la peine, une valeur qui n'en vaut la peine. Fait que là, en 1975, Onoda devient une célébrité. Il écrit un livre, il est la grosse attraction du moment. Il reçoit une grosse somme du gouvernement, mais il est déçu de ce qu'il a trouvé. Il trouve une société qui a laissé les mœurs rentrer de consommation. Il essaie d'épouser les valeurs de la nouvelle société, mais il découvre qu'à chaque fois qu'il est invité dans un talk show, il est l'objet d'attraction, l'objet du musée. Venez voir le gars qui, ça fait 30 ans, qui combat dans la jungle, tu sais. Et puis, il se voit plus comme une relique dans un musée, comme un objet d'attraction, que comme un homme qui a réfléchi, un homme qui a quelque chose à contribuer ou à apporter. Et il va devenir déprimé, comme jamais il l'a été lorsqu'il était dans la jungle. Pourquoi? Parce qu'au moins dans la jungle, il y avait un but. Et ses souffrances étaient endurables et même à la limite désirables. Mais au retour, lorsqu'il est venu dans une société qui avait les mœurs relâchées, il a comme découvert qu'il s'était battu pour rien. Parce qu'il s'est battu pour un Japon qui pour lui n'existait plus. Là, il est devenu déprimé. Il a fait ses valises, il s'est en allé au Brésil, puis il est allé là rester le reste de sa vie. Je veux terminer mon message avec ceci. Les deux gars, ils pensaient que une valeur, c'est quelque chose que tu juges comme qui vaut beaucoup, qui vaut la peine de sacrifier beaucoup pour. Ils se sont battus pour quelque chose qu'ils évaluaient être précieux. Laissez-moi vous donner pourquoi 4 raisons suffisantes pourquoi est-ce que aimer tous les hommes, c'est une valeur qui est précieuse. Premièrement, les hommes, je ne l'ai pas à l'écran, les hommes sont faits à l'image de Dieu. À cause de ça, c'est une raison suffisante. C'est une valeur suffisante parce que c'est pas moi. C'est celui qui décide que la vie, c'est de chasser l'homme des neiges, là. Ben, il l'a pris où, lui, que le but de la vie, c'était de trouver l'homme des neiges? Par contre, celui qui aime ses ennemis, il l'a pris où, ça, qu'il faut aimer ses ennemis? La Bible, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui tient le monde dans ses mains. Okay? Donc, puis la Bible me dit, les hommes sont faits à l'image de Dieu. Puis Jacques dit, écoute, par ta bouche, tu bénis le Seigneur, ton Père, et par elle, tu maudis les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'ils en soient ainsi. Donc ici, qu'est-ce qui est attaqué? C'est l'image de Dieu dans l'autre. Et donc, juste dans la manière que je parle d'un adversaire, hein, j'attaque celui qui l'a créé. À cause de l'image de Dieu, ce serait... C'est une valeur qui est suffisante pour être dit. C'est quoi? Dieu me demande d'aimer tous les hommes parce qu'il les a créés, lui, à son image. Deux, J'étais et j'agis encore comme ennemi de Christ et j'ai besoin moi-même de cette grâce-là. J'étais un ennemi et mes actions sont parfois ennemies de Dieu. Je ne veux pas. Mais j'ai besoin, moi aussi, de cette grâce-là. Et ça, c'est suffisant pour dire, sais-tu quoi, je vais aimer même une personne qui ne mérite pas. Troisièmement, mes actions crient haut et fort que personne n'est exclu de l'offre de la grâce de Dieu, de l'offre de la grâce de Dieu. Mes actions crient que personne n'est exclu de l'offre de la grâce de Dieu. Si je n'aime pas tous les hommes, je suis en train de dire qu'ils ne devraient pas mouiller pour cultiver les champs des méchants, juste sur ceux des bons. Et donc, lorsque je décide d'aimer seulement certains, ceux qui m'aiment, je suis comme le monde. Mais en aimant tous les hommes, je suis en train de dire que personne n'est exclu de l'offre du salut de Dieu. Puis on est des ambassadeurs. Et donc, on est ceux qui disent aux gens, tu peux être réconcilié avec Dieu. Puis quatrièmement, on a dit que aimer tous les hommes parce qu'en eux, il y a l'image de Dieu, mais il a aimé tous les hommes parce qu'il y a l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'aime les autres parce que l'image de Dieu est en eux. J'aime les autres parce que l'image de Dieu est en moi. Et parce que je suis l'image de Dieu dans ce monde, le péché l'a déformé. Mais à cause que je veux vivre cet appel-là. Et donc, c'est un appel, c'est une valeur qu'on doit choisir et adopter. En conclusion, C.S. Lewis, dans son livre « Mere Christianity » en anglais, je vais le traduire au fur que je le lis, il dit « Perds pas ton temps à savoir si tu es en train d'aimer ton prochain. Agis comme si tu le faisais. Plus tu le fais, plus tu vas trouver un des grands secrets, c'est que tu te comportes comme si tu aimais quelqu'un, tu vas éventuellement l'aimer. Mais si tu injures quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas te retrouver à l'aimer encore moins. Si tu lui rends le bien, tu vas découvrir que tu l'haïs moins. » Je trouve ça intéressant. Donc aujourd'hui, en conclusion, comme je disais, je suis toujours dans ma conclusion, troisième conclusion, on a vu que la grâce est ridicule. S'il n'y a pas de justice, puis il n'y a pas de Dieu, la grâce est vraiment ridicule. Tu te dis, crème, c'est quoi là, l'affaire? Il va s'en sortir, là? Il ne paiera jamais, là, pour qu'est-ce qu'il a fait, là? Hein? C'est ridicule. On va trouver ça ridicule. C'est restreint par la douleur, une douleur qui a besoin d'être entendue, vue et pris soin pour qu'on puisse être capable d'aimer. On est invité à écouter la parole de Dieu, à déverser nos cœurs devant Dieu qui a compassion des enfants qu'il servent, pour être capable de se laisser aimer par Dieu, puis de se retourner puis de dire, je suis capable même de prier pour ceux qui m'ont fait du mal. Et finalement, on a vu à la fin qu'il y avait des raisons suffisantes pour souffrir, parce que notre amour en a un but. Puis notre but ultime, c'est de réconcilier des hommes avec un Dieu qui aime tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va arrêter l'enregistrement.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.